Jesus Christus.
Journée de commémoration en France, 10 ans après les attentats islamistes contre le journal satirique Charlie Hebdo, puis contre le magasin Hyper Cacher. Nous retrouverons notre correspondante en France juste après les titres. C'est un des dossiers chauds pour le nouvel homme fort de la Syrie. L'équation difficile entre les groupes kurdes et ceux pro-turcs dans le nord syrien. Au Venezuela, les militaires sont clairs, ils resteront fidèles au président sortant Nicolas Maduro, rejetant ainsi l'appel du chef de l'opposition à le rejoindre. Et puis de nombreuses églises orientales fêtent aujourd'hui Noël. Illustration en Éthiopie en fin de journal.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. La France commémore aujourd'hui le 10e anniversaire des attentats au cours desquels des terroristes islamistes ont tué 17 personnes et fait des dizaines de blessés en plein cœur de Paris et dans la banlieue de la capitale du 7 au 9 janvier 2015. Ces attentats avaient été revendiqués par Al-Qaïda. Ils visaient notamment le journal satirique Charlie Hebdo auquel les terroristes reprochaient d'avoir publié une caricature de Mahomet ainsi qu'un magasin cachère fréquenté par la communauté juive. Les commémorations des attentats ont commencé il y a un peu plus d'une heure en présence du président Emmanuel Macron. Elles continueront jusqu'en début d'après-midi. Les détails avec Marie-Christine Bonzon.
Dans une première cérémonie qui n'a pas inclus de discours, Emmanuel Macron a déposé une gerbe au pied des portraits des 8 journalistes et des 4 autres personnes qui avaient été tuées par les terroristes islamistes dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Les noms de toutes les victimes ont été prononcés à haute voix lors de cette commémoration qui se poursuivra sur 2 autres sites endeuillés par les attentats. Le président français était notamment entouré de personnes qui ont été blessées dans les attentats, de familles de victimes, de la maire de Paris et de plusieurs ministres. Dans une interview publiée ce matin, le ministre de l'Intérieur indique que la menace terroriste demeure élevée en France et que 9 attentats ont été déjoués en 2024. Les commémorations des attentats de 2015 sont entourées de conditions de sécurité importantes. Elles interviennent en effet quelques jours après les attentats à la Nouvelle-Orléans et contre un marché de Noël en Allemagne. En France, les autorités ont arrêté la semaine dernière 3 influenceurs d'origine algérienne et ont indiqué ces dernières heures en surveiller 3 autres. Tous ces individus sont accusés d'avoir diffusé sur l'Internet ce que les autorités décrivent comme des appels à la haine et à la violence. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
Toujours en France, le pape accepte la démission de l'évêque du diocèse de Fréjus-Toulon dans le sud. Monseigneur Dominique Rey sera remplacé par Monseigneur François Touvet. Ce dernier avait été nommé évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon en novembre 2023, avec les pouvoirs spéciaux du gouvernement diocésain. Un diocèse qui fait l'objet de critiques récurrentes sur les dérives de certaines communautés abritées en son sein. C'est dans une atmosphère de liesse que les vols internationaux ont repris ce mardi à l'aéroport de Damas, la capitale syrienne. Un avion de la compagnie nationale syrienne, peint aux couleurs du drapeau de la Révolution, a décollé direction Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Et un vol en provenance du Qatar est également arrivé ce matin à Damas. Des passagers ont débarqué, certains avaient un drapeau de la Révolution syrienne sur les épaules et se sont agenouillés pour baiser le sol syrien. Et pendant ce temps, la transition politique continue en Syrie. Elle est entrée dans une phase délicate de tentative d'unification des nombreux groupes armés. Le nouveau maître de Damas, Ahmed al-Shara, entend former un corps d'armée unifié, mais l'équation est complexe. Alors que des combats opposent encore des factions kurdes à des groupes pro-turcs dans le nord-est du pays, et le nouveau pouvoir fait face à une première difficulté qui va mettre à l'épreuve sa capacité de dialoguer. C'est l'avis de Didier Billon, il est directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, on l'écoute.
Il y a là un enjeu considérable. Alors ce n'est pas uniquement la question kurde qui se pose, mais celle-ci est tout à fait centrale et prioritaire. Et là, il y a une contradiction pour M. Jolani, c'est-à-dire que s'il laisse trop d'autonomie, puisque telle est leur revendication, au groupe kurde, alors il va se fâcher ou il va irriter la Turquie, avec lequel, par ailleurs, il entretient d'excellents rapports. A contrario, s'il donne satisfaction aux exigences turques, c'est-à-dire la volonté d'amoindrir cette région dominée par les forces kurdes, des YPG, etc. Alors, il risque de se mettre à dos les groupes kurdes en question. Donc, l'équation, elle est très simple à poser, mais elle est infiniment compliquée à résoudre. Et là aussi, faudra-t-il passer par des compromis avec à la fois ces groupes kurdes, mais aussi avec la Turquie qui, qu'on le veuille ou pas, aura un rôle déterminant dans la phase de transition. L'affaire n'est pas écrite à l'avance. Monsieur Jolani se trouve confronté à des défis immenses et la façon dont il procède depuis maintenant quelques semaines à peine me semble aller dans le bon sens, c'est avec la bonne méthode.
Voilà l'analyse de Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Les chiffres font froid dans le dos. Plus de 5600 personnes ont été tuées dans les violences des gangs en Haïti l'année dernière, soit 1000 de plus qu'en 2023, selon un rapport des Nations Unies. Les gangs contrôlent aujourd'hui 85% de la capitale Port-au-Prince, une omnipotence qui ne semble pas atteinte par l'arrivée en juin dernier de la mission multinationale d'appui à la sécurité. L'annonce était attendue, elle est on ne peut plus claire. Le général et ministre de la Défense vénézuélien Vladimir Padrino a rejeté l'appel du candidat de l'opposition Edmundo González à le soutenir, alors que ce dernier prévoit de se rendre au Venezuela pour, dit-il, prendre ses fonctions le 10 janvier, le jour de l'investiture de Nicolas Maduro pour un troisième mandat. Le pouvoir chaviste a lui promis l'arrestation du responsable de l'opposition si celui-ci arrive au Venezuela, la correspondance régionale de William Gazo.
Le refus est catégorique. À 3 jours de l'investiture de Nicolas Maduro, le général Vladimir Padrino, qui tire les ficelles de l'armée vénézuélienne, a rejeté sans hésitation l'appel du candidat de l'opposition Edmundo González Urrutia à le soutenir en lieu et place du président chaviste. Dans une vidéo publiée dimanche, Edmundo González a demandé à l'armée de se ranger à ses côtés, une requête qualifiée, je cite, d'acte clownesque et bouffon par le général. Engagé dans une tournée internationale, le candidat de l'opposition revendique toujours la victoire lors des élections présidentielles du 28 juillet et a assuré qu'il sera présent au Venezuela vendredi pour prendre ses fonctions. Mais ni lui ni son entourage n'ont précisé comment l'ancien diplomate devenu ennemi public numéro 1 du régime chaviste comptait y arriver, lui qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités vénézuéliennes. Bien installé au palais de Miraflores, Maduro semble faire peu de cas des bordereaux de vote publiés par l'opposition et qui donnent son rival vainqueur avec 67% des voix. Au contraire, les autorités ont encore répété hier qu'Edmundo González sera, je cite, « arrêté et jugé dès qu'il aura posé le pied au Venezuela ». L'opposition, quant à elle, se veut optimiste et appelée à une grande manifestation jeudi prochain. Bogota, William Gazo pour Radio Vatican.
L'église éthiopienne fête aujourd'hui Noël comme de nombreuses autres églises orientales et pour la deuxième année consécutive, le mouvement Jandéraba organise la Mélodie des Myriades, un grand rassemblement spirituel pour viser les jeunes orthodoxes. Augustine Passilly a assisté à cet événement.
Les chants résonnent déjà dans les bus acheminant les fidèles vêtus de blanc vers la cathédrale Medane Alem dans le centre-ville d'Addis Abeba. Dès 15h30, il est difficile de se frayer un chemin pour accéder à la cour de l'édifice. Alors, de nombreux jeunes femmes et jeunes hommes participent aux célébrations depuis les rues alentours, fermées à la circulation pour l'occasion. Les images du parvis de l'église, où est réunie la hiérarchie cléricale dont le patriarche de l'église orthodoxe Tewahedo d'Éthiopie, Abuna Mathias, sont retransmises sur des écrans géants, qui diffusent également les vidéos tournées par drone. Les organisateurs de cette deuxième édition de la Mélodie des Myriades recensent plus de 70 000 participants qui ont prié et chanté d'une seule voix pendant 5 heures. Derrière cet événement, le mouvement Génération éthiopienne Jandéraba semble avoir réussi son pari de redonner sa dimension spirituelle à ce temps fort du calendrier orthodoxe, jusque-là souvent passé dans les bars et les boîtes de nuit au sortir de 43 jours de jeûne. L'heure est à la joie, les sourires illuminent les visages, tout comme les cierges orangés allumés à la tombée de la nuit. Rapidement, l'odeur de la cire brûlée se propage, rendant l'air irrespirable sans atteindre la détermination de la foule. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Et hier, après la prière de l'Angélus, le pape François avait fait part de ses vœux pour les communautés ecclésiales d'Orient qui fêtent Noël le 6 ou 7 janvier, à l'image de l'église éthiopienne donc, mais aussi de l'église apostolique arménienne. Merci de votre écoute et de votre fidélité. L'information revient tout à l'heure en direct du Vatican à 18h heure de Rome. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.